Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour, vous allez vivre avec nous une demi-heure de cinéma avec des chroniques et un blind test, c'est Cinérama. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Pour toi Guillaume, ce sont deux films.
Oui, alors un français qui sort en salle, c'est Novembre, et un américain qui est sur plateforme, c'est Hocus Pocus 2.
Quant à toi Manu, c'est un film français.
Oui, c'est le nouveau film de Mia Hansen-Love, Un beau matin avec Léa Seydoux.
Quant à Marine, elle nous parlera de L'origine du mal, film qu'elle a beaucoup apprécié, et puis de Blonde, qu'elle a beaucoup moins apprécié. Là encore, un film sur une plateforme, c'est Netflix. Alors, compte tenu du sommaire, nous aurions pu faire un blind test spécial sur le terrorisme, puisque c'est l'objet du film Novembre, de Cédric Jiménez, ou sur Jean Dujardin, qui est l'interprète de ce film. Étant donné qu'on n'a jamais fait de blind test autour de la filmographie de Jean Dujardin, on aurait pu faire un blind test sur Léa Seydoux, si on n'en avait pas fait il y a peu, ou encore sur Marilyn Monroe, mais ce sera en fait un blind test sur les biopics de femmes, donc bien en relation avec ce film Blonde autour de la vie de Marilyn Monroe. Et on commence avec un film où il y a beaucoup de femmes. Il y a Laure Calamy notamment et Dora Tillier pour un thriller dans lequel on ne sait plus qui est qui. C'est L'origine du mal et c'est le film de cet automne, c'est ce qu'a annoncé Marine.
Bah oui, c'est le film et le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Vous êtes Serge ?
Oui. Et donc, toi, c'est Stéphane.
Oui.
Stéphane est une jeune femme interprétée par Laure Calamy qui se débat entre un travail d'ouvrière à la chaîne, ses visites à son amoureuse qui est en prison et de gros soucis financiers. Elle décide de rendre visite à son père qu'elle n'a jamais rencontré, un riche homme d'affaires amoindri par un AVC qui vit reclus sur une île proche de Toulon, entouré des femmes de sa famille.
Serge, vous avez dit qu'il avait une autre fille ?
Vous lui ressemblez pas beaucoup.
Serge a toujours eu beaucoup de succès auprès des femmes.
Il y en avait forcément de moins jolies que d'autres.
L'arrivée de Stéphane jette un froid dans la vaste maison bourgeoise car personne ne semble voir d'un très bon œil cette nouvelle fille qui est sans doute là par appât du gain, hormis le patriarche qui voit en sa présence la possibilité d'une nouvelle alliée. Commence alors une valse des plus cruelles dans laquelle tout le monde ment, dissimule quelque chose, à commencer par ses propres faiblesses.
Je vais avoir besoin de toi.
Pour faire quoi?
Je veux que tu témoignes en ma faveur. Je vais pas me faire piquer tout mon fric par ces deux salopes.
Espèce de vieux mâche.
Toi, tu la laisses faire.
Oh, moi, tu sais tout ce qui peut t'emmerder.
Aidez-moi quand même. Je peux vous demander pourquoi vous lui en voulez autant? Il vous a bien fait la leçon, dirais-je.
Arrêtez les filles, vous me brisez le cœur.
On peut te l'arracher aussi.
L'origine du mal, c'est le nouveau film de Sébastien Marnier que l'on avait déjà repéré avec Irréprochable, un thriller façon Le Couperet de Costa Gavras avec Marina Foïs en agent immobilière prête à tout, mais aussi pour l'heure de la sortie, un thriller écolo inquiétant et singulier. Avec ce troisième film, L'origine du mal, Marnier signe un film noir absolument brillant, au dialogue délectable de méchanceté, mais surtout qui n'oublie jamais d'être humain. Le film ne verse jamais dans la misanthropie, non, il est trop intelligent pour cela, et l'évolution des personnages est remarquablement maîtrisée pour leur donner cher un casting de haut vol. Dominique Blanc revient au cinéma en interprétant une Bette Davis moderne, Doria Tillier campe une businesswoman au verbe acéré, et Jacques Weber forme avec Laure Calamy un duo perfide entre amour et haine. C'est assurément l'un des films les plus réjouissants de l'automne, voire de l'année. Le cinéma français de 2022 trouve sûrement avec L'origine du mal son apogée.
L'origine du mal de Sébastien Marnier est en salle depuis le 5 octobre. Léa Seydoux a quitté le rôle de James Bond Girl pour celui d'une femme veuve. C'est dans un film français cette fois-ci. C'est Un beau matin de Mia Hansen-Love.
Moi, tu me vois?
Ah, bah oui, bien sûr, oui, je te vois.
Et est-ce que tu peux me dire si j'ai les cheveux courts ou longs?
Ils pourraient être longs.
La banalité du titre hein, renvoie à celle d'un sujet qui, sur le papier, bah, ressemble à une caricature d'un certain cinéma français d'auteur cloisonné dans un parisianisme chic. À l'écran, un peu aussi, mais c'est un peu plus compliqué, car certains films tendent le bâton pour se faire battre. Visiblement, Mia Hansen-Løve, assez sûre d'elle, en a cure et avance en sachant très bien qu'elle va recevoir les critiques attendues. Et parfois, il faut bien le dire, amplement méritées. Mais aussi, bah, les louanges d'une certaine presse, hein, de Libé aux Un Rock en passant par Télérama. Alors, rien de neuf à l'horizon, hein, si l'on s'en tient à ce que le film raconte. Sandra est une jeune veuve qui élève seule sa fille de 10 ans. Elle rend souvent visite à son père malade, Georg, ancien professeur de philo, atteint désormais d'une maladie dégénérative. Il perd alors non seulement la mémoire, mais aussi la vue et ses repères spatiaux. Sur les conseils de sa mère, qui est aussi bah, donc, l'ex de Georges, Sandra, épaulée aussi par sa sœur, conscient d'une situation de plus en plus problématique, décide de le placer dans un EHPAD. Cette situation, hein, tristement commune, n'empêche pas Sandra de continuer à vivre. Un jour, elle rencontre un ami de longue date, Clément, perdu de vue pendant des années. Il semble, sans que cela soit vraiment explicite à l'écran, hein, qu'un lien affectif les unissait. Malgré la situation de Clément, marié avec un enfant, ils deviennent amants et surtout, bah, Sandra tombe amoureuse.
Clément ?
Je te reconnaissais pas avec les lunettes. When knowledge has passed away.
J'aurais jamais cru que ce serait possible entre nous. We might. Que je pourrais te désirer autant. Ça me fait mal de penser que tu vas retrouver ta femme. Reste avec moi. Love will remain.
Love. Suspense. Cet amour est-il réciproque ? Clément affirme que oui, ou en tout cas, il s'en persuade, mais un doute s'installe pour le spectateur. Clément n'apparaît jamais totalement sincère dans son double rôle de père de famille et d'amoureux transi. C'est d'ailleurs le seul trouble que procure cette relation à l'écran qui manque singulièrement de chair et de passion. Le thème de l'adultère est traité, certes, avec une pudeur et une distanciation subtiles, mais on a l'impression d'avoir vu ça mille fois, d'autant que certains dialogues n'aident pas. Quand Clément, allongé nu près de Sandra, dit sur un ton grave très premier degré « Comment un corps comme le tien est-il resté endormi si longtemps ?» Bah, l'envie de sourire hein, est plus forte, hein, alors que le but visé était sans doute l'émotion. Une phrase quand même un petit peu digne de la collection Harlequin. Alors la platitude de cette idylle conventionnelle est sauvée par la présence d'une Léa Seydoux lumineuse de naturel. Son jeu sobre et juste parvient à faire exister un personnage assez convenu. En face d'elle, Melvin Poupeau hein, rejoue ce personnage de beau brun ténébreux qui lui collait quand même à la peau dans les années 90 où il avait une vingtaine d'années dans les films de Romer ou de Raoul Ruiz. Il est à sa place, hein, mais presque comme une figure référentielle d'un certain cinéma français dont la réalisatrice, hein, Mia Hansen-Løve, s'est imprégnée dans sa jeunesse avant de devenir critique au sein des cahiers du cinéma.
Où est la clé ?
La clé, elle est dans la serrure. Tu la laisses toujours sur la porte.
Mais où est la porte ?
La porte, elle est en face de toi, et la clé, elle est dans la serrure.
On n'a pas le choix, il faut le mettre en EHPAD. Ton père, avec sa retraite de prof, peut pas se l'offrir. Et personne dans la famille n'a ce type de moyens.
Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces livres ?
Bah, je sais pas. Les donner, ou les jeter.
Mais ces livres, c'est toute sa vie !
Si les séquences de réunion de famille sont assez embarrassantes hein, dans cette façon complaisante de décrire un environnement très bobo intello de gauche, d'autant que Nicole Garcia, en ex-épouse, est assez pénible, les relations entre Sandra et son père sont très touchantes. Alors Sandra doit faire le deuil d'un homme brillant et érudit par le passé qui ne parvient plus à la reconnaître. Et pourtant, on sent entre eux une complicité, des liens très forts au-delà des mots. Signalons que Pascal Grégory, alors autre figure romérienne hein, d'ailleurs, est bouleversant. Sandra est aussi affectée par un dilemme douloureux. Hein, que faut-il faire notamment de la bibliothèque de son père, de tous ses livres qui reflètent son âme, là où, dans les établissements de soins, seul son corps végète. Elle n'arrive pas à s'en débarrasser et hors de question de les jeter ou les brûler, comme le suggère sa mère, hein, préférant les léguer à des gens intéressés. Alors cette approche d'une réalité concrète s'avère sensible et très incarnée. Pour ces petites raisons, Un beau matin bouscule parfois son statut de film d'auteur à mi-donné, dont on ne sait pas toujours si la mise en scène discrète relève de l'épure ou de la fadeur. Bah, à vous de juger. Hein. En ce qui me concerne, mon cœur balance. Hein. Le film peine à convaincre, je dirais, dans sa globalité, mais il est traversé de beaux éclats romanesques et poétiques qui suffisent à le conseiller.
Et puis pour ceux qui veulent voir Léa Seydoux, Nicole Garcia,
Melville Poupeau, et puis Pascal Grégory, hein, Mia Hansen-Løve, qui est d'ailleurs la compagne d'Olivier Assaya, une excellente directrice d'acteurs, en fait. Mmh. Donc, en cela, le film, il a un côté, je dirais, très français, puisque c'est sa première principale qualité.
Un beau matin est en salle depuis le 5 octobre. C'est aussi le cas de novembre. Après Bac Nord, Cédric Jiménez nous plonge au cœur de l'antiterrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Conneries, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Il y a des tirs dans le 10e arrondissement, des rues, les rues, donne-moi les rues.
Et Louise est en ligne avec la PP.
Combien il y a d'assaillants ?
Reste au bureau et tu regroupes tout le monde. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris, ça a tiré rue Bichat au Carillon, rue de la Fontaine au Rouen.
Séverine, tu pars au Stade de France avec ton équipe.
Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert.
Le thème des attentats dans le cinéma français a décidément la cote en ce début d'automne. Alors après Revoir Paris et d'Alice Winocourt qui part de la reconstruction des vivants après avoir essayé de fuir l'horreur, voici venir Novembre de Cédric Jiménez. Alors ici, peu de poésie ou de moments calmes. En même temps, pouvions-nous être surpris vu que le dernier film du réalisateur Bac Nord n'est rien de moins que le meilleur film d'action français de ces dernières années. Alors Novembre, lui, s'intéresse aux attentats du 13 novembre 2015 et plus précisément les 5 jours d'enquête et de traque qui ont suivi l'horrible massacre des terrasses de café, du Stade de France et du Bataclan. Ayant l'intelligence de laisser tout ce qui concerne l'abominable soirée du 13 hors champ, Jiménez se concentre judicieusement sur les hommes et les femmes qui, pendant 5 jours, n'ont pas dormi tant que les coupables restants n'ont pas été stoppés. Mais Novembre risque de fortement décevoir après un Bac Nord ultra efficace. Alors attention, Novembre ne manque pas de maîtrise ni d'intensité et sait optimiser son ambiance anxiogène et ses moments de bravoure. Mais vu qu'il n'y a, et c'est bien normal, aucune latitude possible en termes de licence poétique lorsqu'on met en scène ces événements effroyables et encore très récents, Novembre n'est qu'une transposition cinématographique de faits qu'on a tous pu suivre en direct à la télévision. Donc, comme le film politique La Conquête il y a quelques années, qui du coup perdait une bonne part de son intérêt, Novembre ne passionne franchement pas plus que ça, et n'est au final qu'une belle manière de remercier les efforts de tous les gens mobilisés lors des heures les plus sombres que la France ait connues de récente mémoire, tout en prenant bien soin de se clôturer sur une mise en garde quant au triste avenir qui semble nous attendre.
On est évidemment préparé pour ça, mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles. Aux dernières informations, il y aurait 2 terroristes en fuite dans Paris. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue.
Arrête-toi ! Lâchez-la !
Une chose est sûre, qu'on apprécie ou pas le cinéma de Cédric Jiménez, il est heureusement loin de la terrible vague de polar s'inspirant d'Olivier Marchal, celle-là même qui a conduit à complètement couler le genre et la crédibilité de ce qui fut l'un de nos plus riches genres exploités à l'écran. Donc Jiménez s'est au moins monté et mené un spectacle efficace, sobre et sombre, sachant doser le spectaculaire au milieu de ses portraits de personnages tous plus imprévisibles les uns que les autres, et n'oublie jamais que derrière le sujet sérieux, il y a d'abord le plaisir du vrai divertissement populaire qui impressionne. Et ma foi, c'est déjà plutôt très bien.
Et donc, dans ce film, au casting, il y a quand même Jean Dujardin dans un rôle qui n'est pas si habituel pour lui. Et puis, il y a aussi Anaïs Desmoustiers et Sandrine Kiberlin. Novembre est en salle depuis le 5 octobre. Adapté d'un best-seller, Blonde nous plonge dans la trajectoire de Marilyn Monroe. Et ça nous donnera l'occasion de jouer un blind test spécial biopic sur les femmes.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinérama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
Mademoiselle Monroe, c'est l'heure !
Je ne suis pas une star, je ne suis qu'une blonde. C'est en ces termes que Marilyn Monroe se décrit face à la famille de son mari lorsqu'elle lui demande ce que cela fait d'être célèbre. Et en effet, le film Blonde n'aura de cesse de chercher à montrer la femme derrière l'icône. Mais le film d'Andrew Dominik, sorti sur Netflix le 28 septembre, a-t-il atteint son but ?
Kiss on the hand.
Comment avez-vous débuté ?
Baby.
Débuter quoi ?
Dans les films.
Like continental, but diamonds are a girl's best friend.
Je crois que j'ai été repérée.
Blonde est une adaptation du livre éponyme, une biographie très romancée de Joyce Carol Oates, qui est l'une des plus grandes romancières américaines, passée plusieurs fois tout près du prix Nobel de littérature, et également une écrivaine très anticonformiste qui a un talent fou pour ausculter les ténèbres de l'Amérique. En l'occurrence, dans son livre Blonde, elle imagine la vie et l'intimité de Marilyn Monroe en s'appuyant sur une documentation poussée, mais en inventant également une partie des choses de sa vie. Et c'est aussi pour cela que le film n'est pas à proprement parler un biopic. Le réalisateur décide donc en adaptant ce livre de nous faire entrer dans l'intimité de Marilyn Monroe et parfois au sens propre du terme, puisque nous irons jusque dans son vagin, voire dans l'utérus de la star. Andrew Dominik opte pour une narration labyrinthique qui retranscrit très bien le ton du livre avec un enchaînement de scènes aux ambiances assez différentes qui mélange le rêve ou plutôt le cauchemar et la réalité pour retracer la vie de la plus grande star de cinéma de tous les temps. Le réalisateur décide d'utiliser tous les formats cinématographiques à sa disposition. Les formats d'image changent selon les scènes. On passe également de la couleur au noir et blanc. Alors on peut se questionner sur la gratuité du dispositif ou le voir comme un kaléidoscope d'images qui donne un vrai relief au film et nous donne également la sensation de vivre une expérience cinématographique totale. Une expérience cinématographique fascinante, très étrange, mais aussi très sombre, avec beaucoup d'éléments de mise en scène qui font parfois pencher le film du côté de Lynch, voire du côté du cinéma d'horreur. Et puis le film choisit de ne montrer que des moments douloureux, voire humiliants de la vie de Marilyn Monroe, l'érigeant ainsi en martyr de Hollywood. Alors ce fut en effet une femme maltraitée absolument toute sa vie, de sa naissance à sa mort, par sa mère d'abord, puis par tous les hommes qu'elle a croisés. Mais ce qui est un petit peu problématique, c'est que l'on a la sensation ici que Andrew Dominik a voulu glamouriser ses souffrances. On sent une volonté un peu malsaine d'avilir une icône tout en conservant la part de glamour qui fascinera le spectateur. Et ce qui en découle, c'est que paradoxalement, Marilyn Monroe n'est pas humanisée dans le film. Elle reste une icône salie certes, mais une icône. Le réalisateur Andrew Dominik a décrété que le plus important était que Marilyn Monroe s'était suicidée et que tout son film ne parlait que de la chute d'une personne qui va se suicider. Or, à partir du moment où l'on considère que le plus important dans la vie de quelqu'un n'est pas sa vie, justement, mais sa mort, on peut légitimement parler de fascination morbide. On assiste à quasiment 3 heures de torture porn, on voit Marilyn Monroe être violée, être trahie, être frappée, faire 3 fausses couches, des avortements, tomber dans l'alcool. Mais en revanche, elle garde toujours ses fossiles et son joli maquillage. De même, on ne la voit jamais vieillir, jamais être marquée par ses excès. Une représentation très discutable, appuyée par le choix de Ana de Armas pour interpréter Marilyn Monroe.
Je ne supporterai pas une scène de plus dans la peau de Marilyn Monroe.
Car même si l'on sent qu'Ana de Armas a énormément travaillé pour le rôle, qu'elle s'est très investie dedans, elle est davantage dans un mimétisme assez outré, dans une performance, que dans une interprétation. On voit littéralement Ana de Armas pleurer pendant 3 heures. Alors la faute peut-être aux coupes opérées par Netflix dans le film. Mais ce qui est assez choquant, c'est que l'on ne parle que des émotions de Marilyn Monroe, de sa sensibilité, de sa fragilité, mais jamais de son métier d'actrice, ou si peu, très peu, de son travail qui était pourtant très important pour elle. Marilyn Monroe est quelqu'un qui a toujours été trahi par des hommes qui ont minimisé son talent, qui l'ont utilisé pour son sex appeal. Et lorsque l'on constate que dans Blonde, eh bien, on ne montre ni son intelligence, ni son travail, on se dit que c'est un peu comme si finalement, post-mortem, elle avait encore une fois été trahie par les hommes qui font le cinéma.
Blonde est actuellement diffusée sur la plateforme Netflix. Ça nous donne donc l'occasion, ce film, de jouer un blind test autour eh bien, de films qui racontent la vie d'une femme, d'un personnage souvent, évidemment, connu. Premier extrait.
Que penserais-tu si je te disais que les tableaux de chevalet que tu fais, c'est fini? Que c'est à balancer aux ordures avec les autres passe-temps élitistes bourgeois?
Je répondrais à arrêter la propagande.
C'est du très bon travail. Tu as un véritable talent.
Oh, s'il vous plaît. Je ne suis pas en quête de compliments. Ce que je veux, c'est une vraie critique.
Mais je suis sincère. Je la trouve très originale, ta peinture. Aucun des artifices habituels.
Mais c'est... Ça, c'est pas assez précis.
Tu dois savoir accepter les compliments aussi bien que la critique.
Trouvé, Guillaume.
C'est Frida, de Julie Taymor.
Oui, sorti en 2002, un film qui relate la vie de la peintre mexicaine Frida Kahlo en s'inspirant du livre que lui a consacré l'historienne de l'art Aiden Herrera. 2 Oscars, celui du meilleur maquillage, bon, c'est toujours bon à prendre, et puis celui de la meilleure bande originale, et là encore, c'est bon à prendre. 570 000 entrées en France. Deuxième extrait pour ce blind test, il faut découvrir donc un biopic sur une femme.
Monsieur, je représente ici l'autorité du général de Gaulle. Vous avez en prison un homme qui s'appelle François Vallée. Par 2 fois, contre l'avis du juge d'instruction, vous avez refusé de signer sa mise en liberté provisoire. Si demain, vous ne signez pas favorablement, si le 14 au matin, François Vallée n'est pas libre,
Vous ne verrez pas le soleil se coucher le 14. Écoutez la BBC ce soir. Parmi les messages personnels, vous entendrez celui-ci. Continuez de gravir les pentes. Il vous est destiné. Vous avez bien compris. Continuez de gravir les pentes.
Et c'est Lucie Aubrac de Claude Berry.
Oui, film de 1997, un film qui retrace l'histoire de la vie de Lucie Aubrac pendant la résistance à l'occupation nazie, dont un coup d'éclat réussi à l'organisation d'un commando pour faire évader son mari Raymond Aubrac. C'était Carole Bouquet qu'on entendait, évidemment. 1,7 million d'entrées en France. Nouvel extrait.
Oh, c'est drôle, je me sens toute nue. Vous avez un front, un nez, une bouche, non ?
Vous êtes où ?
Oh, il ne peut pas rester seul une seconde, c'est effrayant. Ah oui, mais on va penser que je n'ai pas de quoi me payer des plumes.
Je veux pas du tout. Avec ce truc-là sur la tête, on se demande comment vous faites pour réfléchir.
Réfléchir?
Vous faites bien semblant que ça vous arrive, non?
Oh, mais où est-ce que Balzan vous a trouvé?
Gardez-le.
Est-ce qu'il y a autre chose qui m'empêche de réfléchir? Allez-y, dites-moi. N'ayez pas peur, je ne veux pas vous manger.
Alors, c'est un extrait où l'on entend Audrey Tautou et Emmanuel De Vos. Audrey Tautou incarne une... un personnage célèbre dans la haute couture.
Non, c'est pas Rodin.
Coco Chanel ?
Oui.
Ah.
Enfin, Coco avant Chanel, oui, plus exactement. Coco avant Chanel. De Anne Fontaine, film de 2009. Le film s'intéresse aux années de formation de la grande couturière Coco Chanel. Comment une jeune fille nommée Gabrielle, d'origine très modeste, autodidacte et dotée d'une personnalité hors du commun, eh bien, va devenir Coco Chanel, le symbole quand même de la réussite et de la liberté, et qui incarnera la femme moderne.
Et au même moment, on a eu donc un autre film sur Coco Chanel qui a été fait par Yann Kounen. Donc on voit, même dans le cinéma français, on aime confronter les... Et dans les biopics, on aime confronter les deux figures, parce qu'il y a eu aussi Yves Saint Laurent qui a eu droit à deux films concurrents.
Oui, c'est vrai que ça pose problème de faire un biopic sur un personnage de la haute culture française. 1 million d'entrées en France pour ce Coco avant Chanel. Nouvel extrait d'un film qui a fait beaucoup plus d'entrées.
Ne me détestez pas trop vite. Ils me haïssent tous déjà. Vos frères, les Guises, bien sûr. Et votre mère ne m'aime pas beaucoup.
La vôtre ne m'aimait pas non plus.
La vôtre a tué la mienne.
Rien ne le prouve.
Vous faites semblant d'être forte, mais vous avez aussi peur que moi.
De quoi aurais-je peur ? Tous ceux qui ici vous détestent m'aiment.
Alors pourquoi vous imposent-ils ce mariage ?
C'est un mariage pour la paix. Personne ne m'oblige à coucher avec vous.
Il y avait quand même quelques indices. Hein. La voix d'Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, et puis les Guises, c'est...
Reine Margot.
Oui, c'est un film de Patrice Chéreau de 1994, prix du jury à Cannes. Adaptation du célèbre roman d'Alexandre Dumas, qui raconte la vie de Marguerite de Valois, donc dite Margot, incarnée par ici Isabelle Adjani, et de ses noces avec Henri de Navarre, futur Henri IV, en passant par le massacre de la Saint-Barthélemy, 2 millions d'entrées en France. Dernier extrait de ce blind test, donc il faut trouver un film, un biopic de femme.
Ne pensez-vous pas qu'étant donné sa célébrité et sa popularité, on pourrait, je ne sais pas, peut-être rendre un hommage officiel à son action humanitaire ? Ou ne fût-ce qu'à Diana en tant que mère ?
Pardon d'insister, c'est sa famille qui a fait ce choix.
Et le peuple, madame ? L'opinion publique ? Ne croyez-vous pas que des obsèques privées lui ôteraient...
Lui ôteraient quoi ?
Le droit d'exprimer son chagrin.
Il ne s'agit pas d'une fête foraine, monsieur, mais de funérailles. Je crois que la presse anglaise n'a que trop persécuté la princesse en la livrant en pâture à l'opinion publique, ne trouvez-vous pas ? Bien, je vais vous laisser s'il n'y a plus rien d'autre. Il faut que j'aille m'occuper des enfants.
Je comprends. Très bien. Au revoir, ma...
Trouvez Guillaume.
Oui, c'est The Queen.
Film de Stephen Frears de 2006. Ce film raconte les coulisses des rapports entre la reine Elisabeth II et le Premier ministre britannique Tony Blair, là on l'entend dans ce dialogue, hein, qui alors ça montre leur rapport de force dans les jours qui suivirent la mort de Diana pour aboutir à un compromis politique sur la manière de traiter son décès, puisque la famille royale britannique ne souhaitait pas que les obsèques revêtent un caractère national et officiel, tandis que Tony Blair, eh bien, lui, avait la volonté de répondre à la demande du peuple britannique qui réclamait des funérailles solennelles. 929 000 entrées en France. Ainsi s'achève ce blind test donc, qui concernait des biopics sur les femmes. Halloween approche, hein, les horribles sœurs Sanderson sont de retour et s'acharnent à nouveau sur Salem, c'est Hocus Pocus 2 sur une plateforme qui est Disney+.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Je te bannis de Salem, et ce à tout jamais.
Et finalement, elles sont revenues.
Ben oui, et d'ailleurs, ben la première chose qu'on peut se dire avec un film comme Hocus Pocus 2, ben c'est qu'il sonne comme une revanche intéressante, ben car Disney avait quelque peu laissé tomber le premier film en 93, choisissant le mois de juillet plutôt que l'automne pour son lancement, qui semblait pourtant être la saison idéale vu que le film se passe le soir d'Halloween. Alors le fait de sortir un mois après le bulldozer Jurassic Park et sans grande publicité n'a pas aidé. Alors ce n'est qu'avec le temps, de la VHS au DVD, que le film est devenu lentement mais sûrement un incontournable du mois d'octobre et idéal pour frissonner en famille. Alors oui, Hocus Pocus 2, lui, ne sort pas au cinéma mais directement sur une plateforme, mais il est au moins sûr qu'il trouvera tout de suite son public, contrairement à l'original. Et par contre, est-ce une bonne chose? Ben, on va voir, justement.
Si on veut rester en vie après le lever du soleil, il faut leur voler leur jeunesse.
Attendez, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait en parler?
Non.
Filons dans les airs.
On sèmera le chaos.
Oh, chaos, chaos, cacao, caraco.
Je ne veux pas t'inquiéter, mais avec une horrible sorcière prête à tout pour se venger. C'est très mal parti pour Salem. Il faut qu'on trouve du sel. Pourquoi ? Qu'on ait meilleur goût quand elles nous mangeront.
Pour rappel, Hocus Pocus racontait l'histoire de Max Denison, un adolescent fraîchement arrivé à Salem, qui, par bravade et pour impressionner la jolie Allison, une minette du coin, s'amuse à allumer le soir d'Halloween la bougie à flamme noire qui ferait revenir, d'après la légende locale, les trois sœurs Sanderson, pendues il y a 300 ans par des villageois en furie. Il s'avère que la légende disait vrai que les sorcières, malgré le décalage horaire, comptent bien profiter de leur retour parmi les vivants pour remettre la main sur leur grimoire qui leur permettrait de supporter la lumière du jour et accessoirement manger tous les enfants aux alentours. Alors le compte à rebours est lancé et Max, Allison et sa sœur Dani, un ancien amant des sœurs Sanderson, revenu d'entre les morts sous la forme d'un zombie et une ancienne victime des sorcières transformée en chat noir, vont devoir rivaliser de malice alors que la ville tombe sous le coup d'un enchantement. Scénarisé par Mick Garris, Hocus Pocus est, grâce à ses qualités formelles, son humour cartoonesque, sa troupe de comédiens particulièrement inspirée et l'exceptionnelle partition de John Debney, est bien devenu au fil des ans un véritable film culte familial. Cette année, ayant besoin d'alimenter en contenu sa plateforme, Disney essaie de réitérer la magie en faisant se succéder à Kenny Ortega, un réalisateur et chorégraphe, Anne Fletcher, réalisatrice et chorégraphe. 29 ans plus tard, par la magie, elle, un petit peu moins inspirée des scénaristes, les sœurs Sanderson reviennent hanter Salem face à une nouvelle génération d'ados. Exit Max et sa clique et bienvenue à un trio de jeunes filles pour conjurer la malédiction.
Du calme, moi je suis un gentil zombie.
L'idée de confronter deux générations bien séparées de sorcières n'était pas mauvaise du tout, et même très réjouissante. C'était l'occasion de faire un portrait peut-être pertinent sur la figure de la femme et de la sorcière à travers les âges, sa place, son acceptation et aussi ses rancœurs. Le problème, c'est que si tout cela est clairement envisagé dès la très amusante scène d'introduction mettant en scène les sœurs lorsqu'elles étaient elles-mêmes adolescentes à Salem, le film oublie d'en faire une force plutôt qu'un pensum handicapant pour les besoins d'une histoire ayant avant tout besoin, comme l'original, de fantasy, de fantastique, d'humour slapstick et de frissons quasiment tout public. S'il est terriblement plaisant de retrouver Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Katina Jimmy dans leur rôle iconique et de constater qu'elles n'ont littéralement rien perdu de leur superbe, il en est tout autrement pour les trois jeunes ados qui sont censés leur faire face. Peu charismatiques, elles doivent en plus lutter contre un scénario qui singe plus qu'autre chose l'original que je vous ai résumé au fur et à mesure qu'il se déroule, pour en arriver à un essoufflement total aux trois quarts du film. Le dernier acte, devant conjurer réflexion féministe positive sur la sororité et les sorcières et devant faire un sort aux mêmes sorcières qui sont vraiment très méchantes, ne sait plus sur quel pied jongler et s'écroule totalement en se contredisant. Alors si Disney a fait mille fois pire cette année en tuant Sam Raimi et Robert Zemeckis, dont la conclusion de son Pinocchio souffrait lui aussi d'une même contradiction aberrante, le sort délivré à l'héritage du film tant aimé de 93 n'est en fin de compte pas beaucoup plus glorieux. Mais bon, de toute façon, et comme chaque année, c'est lui qu'on reverra avec plaisir. Alors bon.
Hocus Pocus, deuxième opus, est donc sur Disney+.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
La semaine prochaine, toi, Guillaume, tu reviens avec un biopic sur une femme.
Allez, on continue la thématique. Donc, c'est sur Simone Veil, le film de Olivier Dahan.
Ça va trancher avec le Marilyn dont on a parlé aujourd'hui. Et toi, Manu ?
C'est le nouveau film de Jean-Paul Civérac, une femme de notre temps avec Sophie Marceau, et puis un film d'horreur sur Netflix qui s'appelle Old People.
Et puis, on aura le plaisir d'entendre Philippe Faucon qui va nous parler de son film Les Harkis. À la semaine prochaine.
Alors comme ça, vous êtes calculatrice à la NASA. On
peut dire que c'est du sérieux.
Oui, en effet.
On laisse des femmes se charger de toutes ces... Enfin... Je me suis mal fait comprendre.
Faites-vous bien comprendre.
Eh bien, je suis surpris que des missions aussi exténuantes.
Oh, Monsieur Johnson, si j'étais à votre place, je ne dirais plus rien.
Je ne voulais pas vous manquer de respect.
This is Cinerama. Cinerama. Cinerama.